France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Saisir ce qui par essence est instable et insaisissable constitue peut-être l'une des missions permanentes des scientifiques. Au début du 19e siècle, Luke Howard, un pharmacien londonien, se met en tête de donner un nom à des objets particulièrement mouvants, les nuages. Cirrus, Stratus, Cumulus font alors leur apparition dans le lexique des météorologues qui courent les campagnes avec leurs instruments, mais aussi dans la vie d'artistes aussi éminents que Goethe ou John Constable. Science Chrono vous raconte aujourd'hui une histoire aussi belle que légère, celle qui flotte derrière le nom des nuages. Bonjour Anouchka Vazak.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en littérature française à l'université de Poitiers, co-responsable du séminaire Perception du climat à l'École normale supérieure, et vous avez publié en 2012 aux éditions Hermann une traduction commentée du texte de Luke Howard sur la modification des nuages, dont on va parler bien sûr tout au long de notre émission. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à comprendre les enjeux nombreux qui sous-tendent cette histoire de la nomenclature des nuages, une nomenclature dont on se sert encore aujourd'hui et qui traduit à la fois le goût prononcé pour la météorologie au début du 19e siècle, mais aussi les grandes porosités qui existaient à l'époque entre le monde des sciences et le monde des arts. Alors avant de nous élever vers les nuages, je vous donne le programme de la deuxième partie de notre émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous vous proposerons un portrait renouvelé des Gaulois grâce aux dernières décennies de découvertes archéologiques qui nous permettent de sortir des clichés et d'affiner notre image de ces peuples qui occupaient une large partie de l'Europe de l'Ouest à l'âge du fer. On en parlera avec l'archéologue, historien et président de l'INRAP, Dominique Garcia. Mais commençons par l'histoire des sciences et cette histoire de l'origine des noms des nuages. Comment en sommes-nous arrivés à créer des grandes familles de nuages baptisées de noms latins et avec quelles conséquences sur l'histoire de la météorologie, mais aussi de façon quelque peu surprenante sur l'histoire de l'art? C'est ce qu'on va voir ensemble, Anouchka Vazak. Et ma première question sera d'ordre général. Est-ce qu'on s'est toujours intéressé aux nuages dans l'histoire des sciences?
Toujours intéressé, je n'en suis pas sûre. Je crois que le début du 19e siècle est un moment particulier où précisément la météorologie s'est quand même dotée maintenant d'instruments beaucoup plus précis. Ça revient, enfin, ça, l'origine c'est le 17e siècle. Là, un siècle est passé, mais il y a eu des baromètres, thermomètres, etc. Tous ces instruments qui ont été inventés précédemment. Et donc la météorologie progresse, elle s'est également organisée en réseau. On a des réseaux en Europe comme la Société météorologique palatine ou depuis plus longtemps la Royal Society. Donc voilà, la météorologie est prête pour accueillir une nouvelle question qui est celle des nuages qui avait quand même été déjà interrogée au XVIIe siècle par exemple par Robert Hooke. De la, justement, Royal Society, puisque lui s'intéressait aux états du ciel.
Comment on explique, au tournant du 19e siècle, cette popularité qu'a la météorologie en tant que science? Tout le monde s'y intéresse, on a l'impression. Alors, c'est peut-être un effet de loupe grossissante, puisque c'est notre sujet du jour, mais comment expliquer cette popularité-là?
Alors, je ne sais pas si je parlerai de popularité, et je suis certaine que tout le monde, enfin, qu'on s'y intéresse beaucoup, mais il y a quand même des distinctions à faire entre l'intérêt des scientifiques et l'intérêt, enfin, la météorologie populaire qui est quand même très ancienne, on la connaît par les almanachs en particulier, et puis la météorologie qui concerne certains métiers plus particulièrement. Luke Howard en parle d'ailleurs, ce sont les marins ou les laboureurs par exemple. Et voilà, donc est-ce qu'il y a, enfin, c'est vrai qu'en Grande-Bretagne il y a un intérêt peut-être plus marqué pour cette question en raison de leur météo
particulière. On ne fera pas de blague sur le temps pourri qui fait en Angleterre, mais on y pense quand même très fort. Alors on s'intègre dans ce début de 19e siècle, Anouchka Vazak, où on a aussi, du point de vue des sciences naturelles, une grande passion pour tout ce qui est classification. Comment on explique justement ce goût-là pour l'envie de mettre les choses dans des cases?
Alors je crois que l'origine de ça, c'est Linné, le naturaliste, le botaniste, donc qui lui a écrit son système de la nature au 18e siècle, qui a considérablement inspiré les scientifiques et jusqu'aux météorologues. Voilà, donc la classification dont on va parler, mais même la concurrente en quelque sorte, celle de Lamarck, dont on dira un mot certainement, sont inspirées des classifications botaniques, en particulier botaniques de Linné.
Alors vous devancez ma prochaine question, vous évoquez le nom de ce grand naturaliste qui est Jean-Baptiste de Lamarck, qui lui aussi a envie de classer et de catégoriser les nuages. Alors là, c'est curieux parce qu'on se dit les nuages, a priori, bon, c'est pas facile à catégoriser. Comment il s'y prend, lui, Lamarck, très peu de temps avant Luke Howard?
Alors, c'est difficile de dire qui a fait la première classification. Moi, j'aurais tendance à penser, peut-être en tant que Française, que c'est Lamarck. Mais enfin, rien ne le dit. Lamarck, lui, donc, va proposer plusieurs classifications à partir de 1802. Et Luke Howard, lui, c'est dès 1802. C'est pour ça que j'ai envie de penser que Lamarck est le premier à réfléchir à cette question. Alors, il va en inventer. Lamarck va proposer plusieurs classifications. Il y en aura au moins trois, et ce, jusqu'en 1818 environ. Donc, c'est une question qui le préoccupe, comme le préoccupe la météorologie en général. Et, il s'y intéresse depuis longtemps. Simplement, les classifications de nuages de Lamarck sont impraticables, très belles, mais difficiles à utiliser, parce que d'abord, justement, elles ont été constamment modifiées par Lamarck lui-même. Et puis quand je vous dis que les noms, c'est par exemple nuages demi-terminés, nuages corrodés, nuages en lambeaux obscurs, ce genre de distinction très subtile ne peut pas être utilisé scientifiquement.
Alors il distingue dans un premier temps 5 grandes familles de nuages en forme de voile, attroupés, pommelés, en balayure et groupés. Ces 5 catégories vont devenir 6, puis 12. C'est ce qui rend, comme vous le dites, Anouchka Vazak, cette catégorisation des nuages par Lamarck totalement impraticable.
Alors il y a cette question-là, en effet, de la spécification de plus en plus précise, enfin en tout cas dans sa deuxième classification, c'est encore plus précis. Il va reprendre quand même les catégories, plus ou moins les catégories de Linné en variété, genre variété. Mais un autre problème qu'a rencontré la classification de Lamarck ou ses classifications, c'est l'emploi du français. Et le français n'est pas une langue. Et peut-être pas la langue scientifique, ou en tout cas une langue transparente à la communauté scientifique.
Et on verra justement que Luke Howard donne des noms latins à ces nuages, aux catégories de nuages, et ça a une grande importance, puisqu'on a parlé de Lamarck, qu'on disait on va pas être trop chauvin, on va aller du côté de l'Angleterre, et on va essayer de planter le décor dans lequel a vécu ce Luke Howard, que moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage. Alors, c'est peut-être le fait d'avoir travaillé sur ce joli sujet, mais je l'imagine comme un type assez discret, assez rêveur, en même temps assez dévoué à son travail. Dans quel environnement il a grandi? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce qu'il a toujours été passionné par ces objets mystérieux que sont les nuages?
Alors, Luke Howard, effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. C'est un Quaker. Déjà, c'est disons un peu particulier parce que ça signifie qu'il est à l'écart d'une certaine façon des réseaux scientifiques officiels, même s'il intégrera plus tard la Royal Society. Il va être reconnu officiellement. Mais au départ, si vous voulez, c'est une science un petit peu plus pragmatique qui a à voir avec justement tout ce groupe, cette société plutôt de Quakers qu'on appelle aussi des dissidents. Donc c'est une direction,
une branche finalement,
une branche, ouais, voilà, de l'Église anglicane. Mais autour de Luke Howard, il y a énormément de Quakers justement, et ils travaillent comme chemical philosopher, c'est-à-dire on traduit souvent pharmacien. En vérité, c'est quand même plutôt un chimiste dans un laboratoire qui est également dont le directeur est également un Quaker.
Alors ça, je posais la question de savoir si Luke Howard avait toujours été passionné par les nuages. Comment expliquer qu'il soit revenu aux nuages en étant devenu chimiste?
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors cette passion, alors on ne sait pas quand même beaucoup, beaucoup de choses sur la vie de Luke Howard, même s'il y a eu même des romans autour de Luke Howard. Et puis il y a un livre aussi formidable écrit qui s'appelle L'invention des nuages de Richard Hamblin, qui est vraiment excellent.
On peut parler aussi de la théorie des nuages de Stefano Dolly, qui est un excellent roman aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Voilà, mais Luke Howard, en fait, il le dit lui-même, il dit « je suis un homme d'humeur domestique ». C'est quelqu'un qui ne voyage pas beaucoup, qui aime bien rester en Angleterre, en l'occurrence, ou dans son laboratoire de Plough Court à Londres, ou sur la colline de Hampstead, hein, qui va être aussi d'ailleurs utilisé par Constable quelques années plus tard,
oui.
Le peintre Constable. C'est quelqu'un qui, depuis tout petit, visiblement, s'est intéressé à la météorologie, peut-être pas aux nuages, mais à la météorologie, puisqu'il avait un laboratoire au fond de son jardin, et sa mère parlait pour l'accès à cette station météo, plutôt, de chemin de Luc.
Alors, on parle beaucoup au XIXe siècle, on en avait parlé d'ailleurs à ce micro, des sociétés savantes, des sociétés d'amateurs, de scientifiques amateurs. Luke Howard fonde lui aussi une société qui s'appelle l'Askesian Society, je ne sais pas si je le dis bien, qu'est-ce que c'est que cette société-là?
Alors, en fait, je ne suis pas sûre qu'il soit le fondateur, mais enfin, c'est un pilier de cette société. Askésis, en grec, ça veut dire exercice. Donc, c'est une société qui est fondée par des Quakers, et de façon très... j'ai envie de dire démocratique. En fait, les Quakers, qui sont savants dans telle ou telle branche, peuvent présenter des conférences, l'objet de leurs recherches, les résultats de leurs recherches.
Alors, quoi de mieux pour notre archive du jour que d'écouter un extrait de l'une de ces conférences de Luke Howard, d'écouter ce passage de l'ouverture de l'essai sur les modifications des nuages et les principes de leur production, suspension et destruction. Étant donné l'intérêt croissant que l'on accorde à la météorologie, l'étude des apparences variées que prend l'eau en suspension dans l'atmosphère est devenue une branche intéressante et même nécessaire de ces recherches. Si les nuages étaient le simple résultat de la condensation de la vapeur dans les masses d'atmosphère qu'ils occupent, si leurs variations étaient produites par les mouvements de l'atmosphère seule, leur étude pourrait certes passer pour une vaine chasse aux ombres. Vaine serait aussi la tentative de décrire des formes qui, étant le jouet des vents, varient sans cesse et ne sauraient, de ce fait, être définies. Mais bien que cette opinion erronée ait pu avoir pour effet de nous détourner de ces formes, les nuages ne sont pas indéfinissables. L'ancienne météorologie populaire est fondée sur l'observation régulière de l'aspect du ciel et de ses rapports avec les phénomènes du moment et ceux qui s'en suivent. L'insuffisance de cette branche de la connaissance rend les prévisions du philosophe, qui se servant de ses seuls instruments n'examine en quelque sorte que le pouls de l'atmosphère, en général moins fiables que celles du marin ou du laboureur, observateur averti du temps qu'il fait. Leurs travaux sont à ce point dépendants de l'état atmosphérique et de la direction de ces courants qu'une observation fréquente, qui à son tour fonde leur expérience, leur est nécessaire. Mais comme cette expérience est d'ordinaire consignée dans la seule mémoire de son détenteur, en une masse confuse de simples aphorismes, le savoir-faire qui en résulte est en quelque sorte incommunicable. Pour permettre aux météorologues tant d'appliquer la clé de l'analyse à l'expérience des autres que de rapporter la sienne propre avec concision et précision, il peut être légitime d'introduire une nomenclature méthodique applicable à toutes les diverses formes d'eau en suspension ou, en d'autres termes, aux modifications des nuages. Voilà, Anouchka Vazak, c'est vous qui nous avez suggéré la lecture de ce passage qui ouvre la conférence que prononce Luke Howard en décembre 1802 devant cette Askesian Society. Pourquoi avoir fait le choix de ce passage-là? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous?
Eh bien, je crois que là, on a vraiment un geste scientifique. Puisque, comme le dit Luke Howard, la considération des nuages peut relever d'une vaine chasse aux ombres.
C'est vraiment une jolie formule,
un objet insaisissable, comme vous l'avez dit. Ailleurs, dans un autre texte, Luke Howard emprunte à Shakespeare l'expression « airy nothings », des riens aériens, pour parler des nuages. Donc, c'est une vraie gageure. Et dans ce texte, en fait, on entend bien ce geste opéré par Luke Howard de distinction. Il dit que ce ne sont pas des objets indéfinissables, donc il va les définir et il va les distinguer, les séparer, comme dit-il ailleurs, des individus. Chaque nuage est en quelque sorte un individu.
Si on rentre dans la charpente de cet essai, comment il se structure, comment il s'organise ?
Alors, l'essai, en fait, voilà, donc la conférence de Luke Howard, elle a été publiée en 2 livraisons dans une revue à partir de 1803, avec des planches, ça c'est intéressant de le souligner, de très très jolis dessins, là aussi c'est un petit peu l'influence de Linné malgré tout, et le texte lui-même de la conférence, qui s'appellera plus tard « Essai sur les modifications des nuages », est divisé en 2 parties. Une première partie où Luke Howard décrit vraiment la nomenclature des nuages, celle que nous connaissons et que nous utilisons encore aujourd'hui. Et une deuxième partie beaucoup plus théorique, scientifique si on veut, extrêmement difficile à comprendre pour un lecteur contemporain. Mais je pense que même un scientifique a du mal à... disons, à interpréter...
Je m'y suis risqué, c'est pas simple non plus, et je suis pas scientifique, loin de moi l'idée d'adopter ce titre-là, mais en tout cas, c'est vrai que en plus, ça fait appel à des conceptions qui sont très très liées au 19e siècle, des conceptions physiques, climatiques, et des notions finalement qui sont aujourd'hui tombées en désuétude.
Oui, comme le calorique, par exemple.
Voilà, exactement.
Mais on a aussi, quand même aussi, l'espèce de d'électromanie qui a traversé tout le 18e et une partie du 19e siècle. L'importance accordée à l'électricité est certainement exagérée dans la théorie des nuages.
Puisqu'on parle de cette nomenclature, on reviendra bien sûr après sur le fait que Luke Howard ne fait pas que donner des noms à ces nuages et les décrire, mais il parle aussi beaucoup des modifications, c'est dans le titre, et on parlera de l'importance d'envisager ces modifications. Cette nomenclature, quelle est-elle? Quels sont les noms que pose Luke Howard et comment il décrit finalement ces grandes familles de nuages?
J'aurais envie de vous poser la question, parce que nous les connaissons tous, ces noms, au moins les formes simples, ce que Luke Howard appelle des formes simples, c'est-à-dire cirrus, cumulus et stratus. Mmh. Ensuite, il y a des formations intermédiaires et des formations composées. Alors, juste un petit mot sur le mot que j'emploie là, je dis formation, parce qu'il m'a semblé que le mot anglais « modification » passait difficilement au pluriel en français, puisque en français, le mot « modification » traduit vraiment le changement, tandis que « modification » au pluriel en anglais, on entend vraiment l'arrêt sur image, en quelque sorte.
L'idée de transformation aussi. Alors, on a parlé de ces noms, cirrus, cumulus, stratus. Après, il crée des formations intermédiaires, les cirrocumulus, les cirrostratus, les cumulostratus, les cumulocirrostratus. Est-ce que cette nomenclature est immédiatement adoptée par les météorologistes quand paraît ce texte de Luke Howard?
Alors, ce qui est certain, c'est que Luke Howard a tout fait pour qu'elle soit adoptée. Il explique pourquoi il a choisi le latin, parce qu'il dit que c'est une langue transparente, en fait, peut-être pas pour le commun des mortels, mais en tout cas pour la communauté scientifique à laquelle il s'adresse. Et en effet, encore aujourd'hui, je crois que nous entendons au moins stratus et cumulus. Stratus comme l'idée de strate, d'étalement, et cumulus, l'idée d'accumulation. Cirrus, ça veut dire boucle, mais bon, voilà, cette nomenclature reste encore assez transparente. Est-ce qu'elle a été adoptée immédiatement? Là, c'est difficile de le dire immédiatement dans la communauté scientifique, ça n'est pas certain.
Comment s'est-elle installée, en tout cas, au 19e siècle, dans la communauté des météorologistes?
Alors, là, déjà, il y a eu plusieurs éditions l'essai sur les modifications des nuages. Jusqu'en 1865, Luke Howard est mort en 64. Et 65, il est vraiment reconnu. Si on a éprouvé le besoin de rééditer, même d'en faire une édition posthume, c'est qu'elle était vraiment reconnue. Ensuite, à partir des années 1870, elle est vraiment adoptée, et ça c'est sûr, puisqu'il va y avoir cette entreprise de la fin du 19e siècle de l'Atlas international des nuages.
Ça me fascine, l'idée de faire un Atlas international des nuages. Alors comment ça se fabrique, cet Atlas-là, à cette époque?
Alors, je crois savoir qu'on a envoyé des photographes prendre en photo les formations nuageuses un peu partout dans le monde. Et à partir de là, on a conçu cet Atlas international des nuages. C'est Ralph Abercrombie et Hilden Bronson.
Alors, ça, cet atlas, je crois que si on cherche bien sur Internet, on peut le trouver de façon assez facile et voir justement ces photographies.
Oui, c'est magnifique.
La photographie, technique inventée au 19e siècle, qui a aussi une importance considérable pour la caractérisation des nuages et puis finalement la confirmation des suggestions et des hypothèses jeunesse de Luc Howard.
Tout à fait, mais on peut dire aussi que la photographie a cette virtualité esthétique qu'il y avait dans le texte de Luc Howard et même à partir de ses planches également. Mmh. Alors là, il faut se référer aux travaux d'une historienne de la photographie, Luce Lebar, qui a beaucoup travaillé sur cet atlas des nuages.
Alors, on a parlé de l'importance de ce texte de Luc Howard dans l'histoire de la météorologie, la facilité finalement qu'apporte cette nomenclature à mieux comprendre la transformation et l'évolution des nuages. Mais je l'évoquais en introduction de cette émission, Anouchka Vazak, il y a aussi toute une dimension qu'on connaît moins, ou en tout cas dont on a moins l'habitude, c'est cette porosité entre le monde des arts et le monde des sciences. Luc Howard ne va pas que toucher les météorologues, il y a d'autres grands artistes qui sont aussi très impressionnés par ses travaux, à commencer par un certain Goethe en Allemagne.
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on se situe dans une époque où il n'y a pas de division, comme on la connaît aujourd'hui, entre science, art, littérature, disons. Et Goethe est vraiment un représentant de cette polyvalence et de ce génie polyvalent, hein, puisqu'il incarne toutes ces potentialités-là, enfin toutes ces disciplines. Le mot n'est pas beau, évidemment, mm-hmm. mais Goethe est lui-même un scientifique, en fait.
Il faut expliquer qui est Goethe, quand même, oui. Au début du 19e siècle, c'est quand même l'un des personnages les plus importants d'Europe, quasiment.
Certainement, oui, oui. Goethe, bon, il est connu, évidemment, d'emblée par les souffrances du jeune Werther, mm-hmm. mais c'est, qui paraît en 1774, il est donc quand même beaucoup plus âgé que Luc Howard. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la science, et en particulier à la botanique, à la théorie des couleurs, mais aussi à la météorologie. Et il a même essayé, enfin, il a fait une esquisse de théorie météorologique en 1825. Et puis, en 1820, un texte qui s'appelle « La formation des nuages selon Howard », qui est une espèce de journal météorologique assez court, dans lequel il décrit quotidiennement les nuages qu'il voit, là, en l'occurrence en Bohême.
Et vous proposez justement cet essai de Goethe dans cette édition, aux éditions Hermann, sur les modifications des nuages. Donc on peut aussi prolonger ce voyage-là dans cette interprétation qu'en livre Goethe. Goethe, lui aussi, je crois qu'il fait même des poèmes en hommage à Luc Howard. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'échanger au moins?
Alors, ils ont eu l'occasion d'échanger, mais ils ne se sont jamais rencontrés. En fait, c'est en 1815 que Goethe prend connaissance de la classification de Howard à travers un autre scientifique, un texte d'un autre scientifique qui s'appelle Thomas Forster, qui a repris la classification de Howard, mais en anglais, ce qui n'a d'ailleurs pas trop plu à Howard. Mmh. Mais c'est ça qui a permis à Goethe d'entrer en communication avec Howard. Il a été d'emblée séduit par cette classification. Il a essayé de le rencontrer, au moins ont-ils correspondu, et Luc Howard a envoyé à Goethe un mémoire, c'est-à-dire, en fait, on dit mémoire, mais c'est une très belle lettre autobiographique. Et par ailleurs, en effet, comme vous l'avez dit, Goethe a écrit un poème, et même une série de poèmes, en l'honneur de Luc Howard, l'homme, dit-il, qui a su distinguer les nuages.
Je prends un extrait d'un de ses poèmes, il dit « Howard nous donne avec un sens sûr une leçon nouvelle d'un merveilleux profit. Ce qu'on ne peut tenir, ce qu'on ne peut atteindre, il le saisit, le retient fermement. Assurément, il définit l'indéfinissable, le limite, le nomme avec pertinence, loué soit ton nom. » Il est complètement possédé par Luc Howard. Moi, ça m'intéresse vraiment de voir un si grand homme se plonger avec autant de passion dans un petit texte, finalement, de météorologie. Et Goethe, il va plus loin. Il dit aux peintres de son époque, suivez l'exemple d'Howard, peignez comme il décrit les nuages.
Tout à fait. Alors, il s'adressait essentiellement aux peintres d'Allemagne du Nord, qu'il connaissait le mieux, comme Caspar David Friedrich, ou un autre peintre qui s'appelle Carus. Mais Friedrich ne va pas accepter ce conseil de Goethe, parce que Friedrich, celui qui a fait ce fameux
voyageur au-dessus de la mer de nuages de Dôme, qui est très 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 emblématique finalement de cette peinture romantique.
Voilà, mais quand vous voyez la mer de nuages, c'est justement pas une des formations nuageuses de Luc Howard.
Friedrich a résisté à Goethe.
Tout à fait, il dit que ce serait, disons, contraire à l'idée de l'art que de s'enfermer dans cette classification-là. En revanche, un peintre comme Carus, lui, a vraiment peint des nuages selon la classification de Howard. Et il faut dire que Goethe lui-même, qui était un très bon dessinateur, a dessiné des nuages avant d'ailleurs d'avoir eu connaissance de la classification de Howard et après. Mmh. Et lorsqu'il en a eu connaissance, il nomme vraiment les nuages d'après les noms de Howard.
Il faut parler aussi de John Constable, parce que lui aussi, là, pour le coup, anglais, est très inspiré par Luke Howard et va jusqu'à faire des cloud studies, des études de nuages. Comment on peut décrire ces travaux-là, qui nous semblent à la fois très très beaux esthétiquement, mais qui témoignent d'une vraie volonté de faire une peinture scientifique?
Alors, en fait, Constable, là encore, c'est pas directement par Luke Howard qu'il a eu connaissance de la classification, mais il a pris ça, en effet, très au sérieux, et il est allé tous les jours, disons, ou pratiquement, dans les années 1821-1822, sur la colline de Hampstead, au nord de Londres, pratiquer ce qu'il appelait le skying, qu'on a pu traduire, c'est Jacques Roubaud, je crois, qui traduit ça comme ça, par prise de ciel, la prise de ciel. Et il faisait donc des cloud studies, des études de nuages, très rapide, et écrivait au verso de ses études de nuages les conditions météorologiques, la direction du vent, l'état justement du ciel, et également, dans certains cas, il nommait les nuages d'après la classification de Luke Howard. Oui, de Luke Howard.
Ouais. On est tous fascinés par les nuages, on voit que ces personnages-là l'étaient aussi, mais avec ce petit angle, cet angle scientifique-là, comment on peut expliquer, d'un point de vue philosophique, le fait qu'à cette époque-là, on veuille maîtriser absolument l'immaîtrisable et qu'on veuille à tel point le caractériser?
Cette question est vraiment difficile. Je ne sais pas si je peux y répondre, mais je crois que cette passion pour la météorologie, cet intérêt n'a cessé de se développer jusqu'à aujourd'hui. La preuve, c'est que vous faites une émission sur cet objet quand même très singulier, et en particulier le nuage particulièrement évanescent, dont on sait aussi qu'il a un rôle dans la question du changement climatique.
Alors moi, je me posais une autre question, c'est d'un point de vue même politique. On est à des tournants, là, début du 19e siècle. Il y a eu des grandes périodes d'instabilité. Est-ce qu'on cherche aussi à stabiliser l'incontrôlable en essayant de donner des noms et de ranger ces nuages dans des cases? Est-ce que ça allait trop loin dans l'interprétation ou pas, selon vous?
Alors, il y a un livre de Fabien Locher qui s'appelle « Le savant et la tempête » et qui montre que la météorologie n'est pas une science qui est très appréciée, en tout cas par le pouvoir impérial en France. Et Napoléon, lui, c'est notamment moqué de la marque et de ses classifications de nuages, mais aussi de son intérêt pour la météorologie, parce que Napoléon considérait que c'était une curiosité qui devait être réservée aux amateurs d'almanach.
Pourtant, lui, il a été bien aidé par la météo dans certaines de ses batailles.
Vrai.
Bon, ça, c'est un cas à part. Si on doit faire un petit bilan, Anouchka Vazak, de ses travaux, de Luke Howard, que reste-t-il aujourd'hui de Luke Howard dans notre appréhension des nuages?
Alors déjà, évidemment, les noms. Les noms, je crois qu'on ne les oublie pas, on ne les oubliera jamais, au point que on connaît les noms des nuages plus que le nom de Luke Howard. Alors cette classification, j'ai oublié de le dire, mais elle a été spécifiée, précisée. En particulier, la classification Luke Howard, elle est fondée essentiellement sur la morphologie, et on a introduit d'autres critères, comme par exemple le critère de l'altitude que Lamarck, lui, avait perçu. Donc, elle est fondamentale, cette classification. Mais ce qui reste aussi de Luke Howard, et là, je crois que c'est un peu en lien avec la sensibilité de notre époque, c'est ce pont qu'il jette entre art et science, entre science et art. Je crois que ça nous parle particulièrement.
Et ça nous parle effectivement beaucoup. Merci beaucoup, Anouchka Vazak, d'être venue nous parler de cette histoire de Luke Howard et de cette nomenclature des nuages. Je rappelle qu'on peut lire le texte de Luke Howard que vous avez traduit aux éditions Hermann. On peut aussi ajouter à cette lecture, je le disais, le très beau roman de Stéphane Audeguy, La théorie des nuages. C'est une bonne façon de prolonger ce séjour dans les hautes altitudes. Thank you. Par Django Reinhardt dans Science Chrono sur France Culture. Des nuages à notre sujet archéologique qui vient, la transition est toute trouvée puisqu'on va parler de certains peuples qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ou bien peut-être est-ce l'un des nombreux clichés qui les accompagnent ? On va voir ça.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Qui étaient les Gaulois depuis le 19e siècle? Cette question fait l'objet en France de plusieurs réponses alimentant le roman national sans que ces réponses soient systématiquement associées à des données archéologiques. Bagarreurs et bons vivants, résistants de la première heure à l'image de leur chef héroïque Vercingétorix, ou encore ensemble de peuples semi-sauvages élevés par la civilisation romaine, tout y est passé pour décrire ces groupes humains qui peuplaient une large partie de l'Europe de l'Ouest durant l'âge du bronze et l'âge du fer. D'où vient cette envie de figer les Gaulois dans la cire? Et comment l'archéologie nous apprend-elle depuis des décennies à mieux connaître ces Gaulois, par-delà le portrait qu'ont bien voulu nous en fournir les sources antiques, Jules César en tête. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Garcia. Bonjour.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes archéologue, historien, président de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP. Vous venez de publier aux éditions du CNRS une nouvelle version de votre livre intitulé « Les Gaulois à l'œil nu » illustré par Jérémy Perraudeau. Merci beaucoup de venir nous expliquer aujourd'hui comment les découvertes archéologiques réalisées au cours des dernières décennies nous permettent de connaître plus finement ces Gaulois dont le portrait a plus souvent relevé du mythe que de l'histoire. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais ouvrir cet entretien archéologique avec l'écoute d'une archive. En 2006, l'ami Vincent Charpentier, qu'on salue, recevait dans le Salon Noir sur France Culture l'un de vos mentors, Dominique Garcia. Il s'agit de l'archéologue et historien Christian Goudineau qui répondait à la question « À quoi est liée cette réappropriation en France des Gaulois par les différents régimes qui se sont succédés depuis le 19e siècle ?
C'est lié évidemment avec la création de la nation. Au début du 19e siècle, lorsque ce grand mouvement va se lancer, qu'est-ce que l'on essaye d'avoir ? On essaye d'avoir un territoire, on essaye d'avoir des ancêtres qui remontent le plus loin possible, et on essaye d'avoir une unité. Et donc les Français, mais d'autres peuples aussi, les Français vont se tourner vers les textes de Jules César, nous disant qu'il y a eu une Gaule qui s'étendait jusqu'au Rhin, qu'il y avait des Gaulois qui habitaient cette Gaule. À l'époque, on n'avait aucune idée de la préhistoire. On remontait, selon le calendrier biblique, à 3000 ou 2000 avant Jésus-Christ. Donc, on avait ça. On était heureux d'avoir ça. C'était fondateur, ça légitimait notre existence. Et d'autre part, ces Gaulois qu'on connaissait à travers, précisément, le regard des Latins et des Grecs, c'était des barbares. C'était des sauvages auxquels les Romains allaient apporter le progrès, la civilisation. De la même manière que nous, nous apportions la civilisation à des petits jaunes, à des petits arabes et à des petits noirs. Vous voyez, tout ça, c'est un mouvement. Et il a fallu attendre longtemps pour, disons, l'atténuer. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui encore, dans les mentalités, eh bien, ces vieux schémas aient disparu.
Voilà, Dominique Garcia, on était en 2006, quand Christian Goudineau disait qu'il n'était pas sûr que ces vieux schémas autour des Gaulois aient disparu. On est quasiment 20 ans après cette prise de parole. Est-ce que on peut faire le même constat ?
Alors, les schémas existent toujours, presque. C'est émouvant d'écouter cette archive de Christian Goudineau, qui a été professeur au Collège de France jusqu'en 2010, qui occupait la chaire qui est la mienne aujourd'hui à l'Université d'Aix-Marseille, qui est une chaire d'antiquité nationale. Mmh. Déjà, vous voyez, à l'université, ça existe encore. On a des chaires d'antiquité nationale, donc là, pour nourrir un peu l'histoire de la nation. Je prendrai l'image d'archéologue en disant que tout ça, c'est stratifié et que ces images classiques, traditionnelles des Gaulois existent encore, mais se sont rajoutées d'autres images beaucoup plus matérielles, beaucoup plus historiques, grâce justement à l'investissement de Christian Goudineau, qui s'est rendu compte que pour passer outre le folklore, pour passer outre l'histoire nationale. Il fallait enrichir la documentation, et pour les Gaulois, enrichir la documentation, c'était ouvrir des chantiers, ouvrir des fouilles, mettre en place, en fin de compte, une recherche archéologique importante, en programmé, en préventif, et il a été un acteur important de cette réappropriation de l'histoire des Gaulois par un renouvellement des sources.
Alors, en préparant cette émission, je cherchais une carte. J'adore les cartes qui me permettraient de situer un peu ces peuples gaulois au nom fleuri, les Allobroges, les Éduins, les Biturriges, etc. Et je suis tombé sur un article de 1968 paru dans la revue archéologique du centre de la France, un article qui était signé du docteur Dupoux et qui disait de façon presque définitive, je le cite, « L'archéologie gauloise soulève trop de problèmes, trop de questions restent controversées. » Alors, est-ce que vous partagez sur ce point de vue? Et si oui, quels sont les problèmes et les questions controversées propres aux Gaulois?
Alors, quand on travaille sur les Gaulois, on n'a pas envie que ça soit controversé. Mais c'est un petit peu le paradoxe. Si on veut fâcher, si on veut gronder, on parle des irréductibles gaulois, des Gaulois réfractaires. Et donc là, on clive. Et si on veut rassembler, on parle aussi des Gaulois. On prend un personnage comme Astérix ou comme Vercingétorix et on retrouve. Donc à la fois, le Gaulois, c'est celui qu'on montre du doigt, c'est le perdant. Ou ça peut être le perdant magnifique, le Vercingétorix, auquel on est prêt tous de s'en ressembler. Ça, c'est les clichés, ça, c'est les images. Et puis, la force des Gaulois, c'est que c'est une histoire, c'est une archéologie qui est sous nos pieds et à côté de nous. C'est-à-dire que, grâce à l'archéologie, on peut aujourd'hui s'approprier ces repères historiques, archéologiques, grâce aux fouilles qui se déroulent partout en France. Et donc, de cette image d'Épinal, de ce personnage iconique du Gaulois, aujourd'hui, on a un Gaulois qui est présent au musée des Champs Libres à Rennes, au musée de la Romanité à Nîmes, au musée de Lyon. Et donc, voilà, une archéologie qui a permis de rendre les Gaulois à tous et peut-être avoir une image beaucoup plus nuancée.
Je disais aussi, en préparant cette émission, un autre entretien de Christian Goudinot qui disait que lui, en 68, quand il se confrontait pour la première fois à ces sujets archéologiques autour des Gaulois, on le décourageait d'aller vers ce sujet d'étude. On considérait que ce n'était pas si intéressant que ça de se pencher sur les Gaulois parce que ce n'était pas vraiment une civilisation intéressante comme peuvent l'être les Égyptiens, les Grecs, les Romains.
Ah, bien entendu, encore aujourd'hui, effectivement, quand on va, et c'est souvent pointé, au musée du Louvre, on présente c'est un musée universel qui présente l'universalité, mais par contre ne présente pas le résultat des fouilles archéologiques sur le territoire national, et notamment cette histoire des Gaulois. Donc effectivement, il y a les civilisations fortes, l'Égypte, Rome, Grèce, et puis il y a les sociétés mineures dont font partie les Gaulois. Bon, balayons ça, et aujourd'hui, effectivement, en dressant un tableau plus optimiste de cette histoire des Gaules.
Vous, Dominique Garcia, vous êtes proto-historien, vous vous intéressez finalement à ces Gaulois avant que Jules César ne débarque avec ses troupes dans ce territoire qu'occupaient ces peuples celtes qu'on appelait des Celtes. Alors on va parler, peut-être, première question, Celtes, Gaulois, quelle différence? Pourquoi on les appelle tantôt l'un, tantôt l'autre?
Si on veut faire simple, on va dire que Celtes était le terme qu'utilisaient les Grecs et Gaulois, le terme qu'utilisaient les Romains. C'est le même espace, c'est les mêmes populations, mais avec une temporalité différente. Et peut-être une nuance, c'est que le mot celte n'est pas un mot gaulois. C'est un mot qui a été apporté sans doute par les Grecs, qui découvrent un espace et qui baptisent la Celtique. Donc on est là dans une phase d'exploration. Ce sont les Grecs qui font rentrer nos Celtes et nos Gaulois dans l'histoire, parce qu'ils sont les premiers à les nommer. Et ensuite, les Romains, quand ils viendront, vont renommer cet espace la Gaule et donc les populations, les Gaulois, peut-être dans un concours de circonstances particuliers. Le terme de Gaulois, lui, veut dire quelque chose en gaulois. Gaulois, ça veut dire gaillard, costaud, voilà, vif. Et c'est sans doute le nom d'une peuplade, d'un groupe, d'une tribu qu'ont croisé les Romains dans le nord de l'Italie ou dans les Alpes. Et donc, ils ont pris ce nom. Pour eux, ces barbares se nommaient gaulois. Et donc, tous les autres barbares à proximité d'eux se nommaient gaulois. Donc, au départ, la Gaule, cette antique celtique, est un concept géographique dont l'identité s'est construite au fur et à mesure des siècles, par les contacts avec les autres populations. Et d'ailleurs, moi, voilà, en tant que proto-historien, en tant que chercheur, c'est ce terrain-là, ce laboratoire qui m'intéresse. comment se construisent des identités, comment se construisent ces peuples, justement parce que les peuples ne sont pas autochtones, ne naissent pas de la terre, mais sont construits dans le cadre d'interactions avec les autres populations. Et donc, c'est presque les Grecs et les Romains qui ont fait naître cette notion de peuple gaulois.
Comment ces tribus gauloises se structurent-elles avant que Jules César n'arrive et veuille mettre de l'ordre dans la maison?
Alors c'est, on imagine, une soixantaine de tribus qui sont là en place sur, on va dire, des petites régions françaises actuelles. D'ailleurs, le terme pour identifier ces espaces, on appelle des pagis. Le terme de pagus est le terme qui a donné en français aujourd'hui le nom de pays.
Et qui fait que quand on est à la campagne, par exemple, on peut encore entendre parler les gens de pays.
Vivre.
Pour parler d'un village
voilà.
À côté
exactement.
D'une vallée.
Donc on est dans cette notion de ces pagis, du pagus gaulois, une soixantaine, on va dire, de grands peuples, et puis à l'intérieur, ces cantons, ces pagis que l'on vient d'évoquer, des populations qui sont en cours de sédentarisation, qui n'ont pas encore atteint le modèle urbain, ou du moins le modèle urbain méditerranéen, et qui donc vont entrer malgré elles en interaction avec les Grecs et les Romains, parce que eux vont avoir besoin des ressources de ce territoire. Ils vont venir ici rechercher ce qui leur manque autour du monde méditerranéen.
Qu'est-ce qui leur manque ?
Alors, cette période du premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est celle de l'émergence des grandes cités-états dans le monde étrusque, dans le monde grec et dans le monde romain. Et les villes, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont consommatrices, ont besoin de ce que les Grecs appelaient le biotos. Le biotos, c'est les produits de première nécessité. Et dans ce biotos, il y a d'abord les céréales, parce que quand on est en ville, on produit pas et on a besoin de céréales. Donc, on les cherche d'abord autour de la ville et ensuite, on va les chercher ailleurs. Dans les pays que l'on va fréquenter, coloniser, et donc on va le chercher dans le monde gaulois, les céréales, le métal, qui est le nerf de la guerre, là aussi, la ville, elle le consomme des armes, elle le consomme de la monnaie, des outils, on a besoin de métal, et on va aller chercher ce cuivre, cet étain ailleurs, et puis elle a besoin aussi de force de travail, et on va récupérer des esclaves. Donc avec ces produits de première nécessité, vont être récupérés par ces Étrusques, ces Grecs et ces Romains, et ils vont aller le chercher en dehors de l'horaire habituel de fonctionnement, et donc dans le monde périphérique, dans le monde barbare, et dans ce monde barbare se retrouve la Gaule. Et on l'a peut-être oublié, peut-être encore aujourd'hui, au moment où on parle de réarmer notre pays, mais en Gaule, on avait des ressources en or, en argent, en cuivre, en céréales, des esclaves, on va dire, liés à des interactions entre les différents peuples. Et puis, on était sur des chemins. La Gaule est un isthme important, des chemins, des routes pour aller récupérer l'ambre de la Baltique, l'étain des Cornouailles ou de la Bretagne. Donc, naturellement, Étrusques, Grecs et Romains ont fréquenté cette région pour récupérer ses biens, pour commercer, en échange de vin, en échange de produits manufacturés, et ensuite ont provoqué une évolution de ces populations. Et donc, en ce sens-là, elles ont construit une identité de ces populations gauloises, ont mis en place des circuits commerciaux, dont est née ensuite cette Gaule que connaîtra César, ou qu'on voudra conquérir César, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Alors, on parle de la Gaule, Dominique Garcia, qui est un territoire qui, avant l'arrivée de Jules César, n'est pas si défini que ça et n'a pas de réelles frontières. C'est un espace qui est vaste. Vous montrez très bien dans votre livre « Les Gaulois à l'œil nu » toutes ces dynamiques-là, justement, d'échanges, etc. Comment on peut parler d'une unité, ou en tout cas, quels sont les points communs entre ces nombreux peuples qui vont des Pyrénées jusqu'à la Belgique, jusqu'au Rhin, jusqu'à la Suisse, jusqu'au nord de l'Italie? C'est quand même un espace assez étalé, assez important, à l'époque où il n'y a pas de moyens de communication comme on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui les reliait, ces Gaulois des Pyrénées et ces Gaulois de Belgique?
Alors, les réseaux de circulation existaient depuis l'âge du bronze, parce que pour faire du bronze, il faut du cuivre et de l'étain. L'étain, on le retrouve dans des régions spécifiques, et donc ces circuits, ces espaces, ces routes existaient, donc il y avait un contact. Ensuite, on sait aujourd'hui que ces populations parlaient la même langue, ou des langues proches, le celtique, qu'on retrouve encore dans des noms de lieux, dans des noms de personnes, dans un peu de vocabulaire actuel. Donc, ils parlaient, il y avait une unité linguistique, il y avait probablement une certaine unité religieuse, on le voit aujourd'hui dans les rituels qui sont assez proches dans ces différentes régions, et puis donc ils partageaient des aspects culturels propres. Donc un mode de vie semblable, on n'est pas encore dans un stade urbain affirmé dans un premier temps, des éléments linguistiques, des éléments religieux, et donc sans véritable unité visible, il n'y a pas justement la fameuse nation pointée par Christian Goudineau tout à l'heure, même pas des frontières. Christian Goudineau a révélé que c'était César qui avait tracé la frontière de la Gaule sur le Rhin pour définir son champ de bataille, en fin de compte.
Il disait c'est Jules César qui a inventé la Gaule.
Jules César a inventé la Gaule. Jules César arrive général pour conquérir cet espace, un moment où justement les Gaulois s'émancipent, un moment où il y a un risque pour les populations romaines qui sont installées en bordure de la Méditerranée, dans la Provincia, dans la Cisalpine. Et à ce moment-là, effectivement, César, quand il intervient sous un prétexte, parce que les populations bougent un petit peu et s'aiment, César, quand il va intervenir, va devoir définir l'espace militaire, qu'il va son terrain de bataille. Et donc, il le défini de manière claire avec les Pyrénées, avec l'Atlantique. Il donne des grands espaces comme ça géographiques. Et puis il dit, et ça s'arrête au Rhin. Et donc, en fin de compte, il y a une approche pragmatique dans ces rapports que constituent ces rapports militaires que constitue la guerre des Gaules. Et comme ça, il dessine un espace dont nous sommes encore l'héritier et dont on peut dire qu'il a été inventé par César que quand on s'appelle Christian Goudineau et que l'Union européenne est faite.
Alors, la guerre des Gaules, on en parle parce que c'est vraiment une des sources principales historiques pour comprendre ce qu'étaient ces peuples gaulois. Quel portrait dessine César de ces Gaulois et pourquoi faut-il toujours remettre en perspective et remettre en contexte ce texte-là qui n'a pas valeur de vérité éternelle, on va dire.
Alors, le texte de César, qui est le commentaire de la guerre des Gaules, est en fin de compte un recueil de rapports envoyé par César au Sénat, documenté d'ailleurs par ses troupes. C'est pas lui qui écrit tout, il rassemble des notes un petit peu pour faire ces petits éléments. Il a besoin d'envoyer ses rapports au Sénat pour bénéficier de moyens, d'argent, de troupes, pour justifier ses intentions militaires. Et donc dans ses rapports, il donne de manière détaillée ses actions, ses faits de guerre, mais effectivement, il les contextualise lui-même en décrivant les paysages, les modes de vie. Il n'est pas anthropologue, il n'est pas historien, ça on le sait tous.
Mais c'est pas un récit ethnographique.
C'est pas
du
un
tout.
Récit ethnographique. On dit qu'il ne ment pas, sinon par omission. Mais donc ce tableau est quand même riche, enrichissant pour tous. Il a été aussi le livre de chevet des savants, des notables, des gens qui ont appris le latin. Donc du coup, il a imprégné aussi pendant des siècles cette image un petit peu de la Gaule décrite par César. Donc c'est un document de première main, mais qui est partiel et partial. Et donc, sinon s'en méfier, du moins le compléter par de nouvelles sources, les archives du sol, la documentation archéologique.
Et on y viendra bien sûr à cette documentation archéologique. Dominique Garcia, une petite question. Si c'est Jules César qui a inventé la Gaule, est-ce que c'est Jules César qui a inventé Vercingétorix aussi?
Alors, dans mon livre, sans vouloir polémiquer, je jette un petit caillou dans la mare. Vercingétorix, non, il était là, on le connaît, il a eu une action importante, etc. Mais je pose la question de savoir si César n'a pas forcé le trait sur les qualités de ce personnage pour en fin de compte en faire un ennemi public numéro un. Lui, César étant là, il avait besoin de dire qu'il se battait contre des gens costauds, des gens qui pouvaient être unis, qu'il y avait un véritable danger, et nommer le danger, encore aujourd'hui, ça nous arrive parfois de le faire, à quelque chose de fédérateur. C'est lui l'ennemi, c'est lui qu'il faut combattre, et peut-être a-t-il choisi même quelqu'un qui était un petit peu à sa hauteur, quoi, quelqu'un dont il savait qu'il arriverait à le vaincre, et d'ailleurs, Vercingétorix se fait piéger assiéger relativement facilement à Alésia. Et justement, César ne va pas le tuer. Il va le prendre, il va l'amener à Rome, il va le traîner dans l'exposer. Les rues, le présenter, l'exposer, pour montrer que lui avait été capable de vaincre ce personnage dont il avait dressé un tableau terrible.
Finalement, est-ce que, Dominique Garcia, la principale fragilité des Gaulois, c'est de ne pas avoir d'écriture ?
Alors, pour nous, historiens, bien entendu, s'ils avaient écrit, s'ils avaient été eux-mêmes porteurs de leur propre histoire, les choses auraient été plus simples. Mais on n'est pas là pour refaire l'histoire. Eux n'avaient pas d'écriture, ils avaient une langue. Ils ont parfois utilisé les alphabets étrusques, grecs et latins pour écrire. Donc, ils empruntaient les alphabets à l'autre. Mais effectivement, aujourd'hui, dans les grands textes, on n'a pas ça. Alors, du coup, Goudineau, qui était historien, et puis aujourd'hui, tous mes collègues archéologues, on essaie de compenser cette absence de texte par des archives du sol, par la documentation archéologique, par des bibliothèques inédites, qui sont ces sites archéologiques, qui permettent de manière objective, ou du moins orientée de manière différente, de dresser et de compléter un petit peu notre état des lieux et nos connaissances sur les populations gauloises.
L'archéologie des Gaulois, elle est particulièrement dynamique depuis plusieurs décennies. Dominique Garcia, quels sont selon vous les principaux éclairages qu'a pu apporter l'archéologie sur ce portrait des Gaulois ? Comment l'archéologie nous a permis, au cours des 30 dernières années, sur quel point en particulier, nous a permis de faire un portrait des Gaulois beaucoup plus fidèle ?
Alors, l'archéologie, elle a complété l'image de la Gaule qui était celle de César et des gens qui ont étudié les textes césariens, qui était celle des champs de bataille. Et elle leur a donc permis de connaître les campagnes, les lieux de culte, les nécropoles, de voir qu'il y avait de véritables villes qui apparaissent dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, qui se développent au 5e siècle et qui renaissent au 2e siècle avant Jésus-Christ, avec une forme de ville qui n'est pas la ville méditerranéenne, mais qui a des formes et fonctions urbaines qui sont propres à la situation gauloise.
Comment se structurent ces villes, par exemple ?
Alors, ces villes, on a en tête des grands sites comme Gergovie, comme Alésia. On a des sites méridionaux comme Lattes, comme Entremont. On a des agglomérations qui sont généralement des agglomérations de hauteur, placées près des lieux de communication, et dont j'émets l'hypothèse qu'elles sont souvent, elles ont été implantées sur des lieux de culte antérieurs. Et que c'était justement le lieu de culte qui avait fédéré les populations. Les populations auraient gagné le sanctuaire, qui est un sanctuaire confédéral, et qui aurait permis comme ça ce regroupement d'un peuple autour d'un lieu. Et à l'intérieur, on a souvent des îlots agglomérés, et puis des activités propres à une ville, de l'artisanat, du religieux et du politique.
L'archéologie nous permet donc de comprendre cette urbanisation gauloise, qui n'est pas une urbanisation, comme vous le disiez, méditerranéenne, construite en dur finalement, avec des traces, des ruines, des grosses pierres on a l'habitude de voir, voilà, il suffit d'aller à Rome. Il y a d'autres volets sur lesquels l'archéologie nous renseigne, en dehors de l'urbanisation, je ne sais pas, sur les structures sociales, sur l'organisation.
Alors, sur les paysages, parce que justement, notamment l'archéologie préventive a permis de dégager des grands transepts, d'avoir justement des murs, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir des objets, mais aussi d'avoir ce qu'on appelle des écofacts, c'est-à-dire des pollens, des charbons de bois, qui permettent de dessiner les paysages sur le long terme. Donc, tout cela nous montre, illustre une Gaule qui est très exploitée. On a une agriculture qui est relativement performante. On connaît des greniers, des champs de silos. Donc la Gaule produit plus qu'elle consomme, d'où cet intérêt-là. On a effectivement les carrières et les mines que j'évoquais tout à l'heure. Dans le Limousin, une exploitation d'or qui est importante, de l'étain, de l'or, probablement dans le Morvan. Donc on voit une Gaule laborieuse. Et puis, on a des lieux de culte, des sanctuaires qui ont été fouillés en Gaule Belgique dans le Midi ces dernières années et qui permettent de montrer un petit peu, de donner à lire une histoire des religions gauloises à partir des rituels.
Et puis on a des sites comme la tombe de Vix, par exemple, en Côte d'Or, ou encore Lavaux, dans l'Aube, qui sont des sites qui révèlent une culture matérielle particulièrement riche, luxueuse, très belle.
Alors, luxueuse, belle, et puis qui montre justement ces interconnexions à l'échelle euro-méditerranéenne. Quand on est à Vix, on est vers 500 avant Jésus-Christ, à Lavaux, dans les années 475 avant Jésus-Christ, et on est là dans le seuil de Bourgogne, dans la haute vallée de la Seine, et dans ces lieux clés, dans cette zone d'interfluve qui permet de relier le bassin méditerranéen au bassin atlantique et vers la mer du Nord, on retrouve des sites importants, des États émergents qui contrôlent ce commerce entre le Sud et le Nord. Et dans ces tombes que vous avez citées, on retrouve par exemple à Vix le plus grand vase grec en bronze trouvé au monde, a été trouvé à Châtillon, à Vix, en Bourgogne, ce n'est pas rien. Et la tombe de Lavaux a livré un matériel extrêmement riche qui montre qu'on avait là des personnes puissantes. Le marché euro-méditerranéen se faisait là et était contrôlé là par ces États émergents.
Vous parliez de la vallée de la Seine, Dominique Garcia, je crois que c'est une question qui vous travaille en lien avec les Gaulois et étudiez justement le rapport qu'entretenaient les Gaulois avec la Seine. Alors, quelles sont les pistes de recherche que vous suivez?
Alors, dans le cas de la Seine, un élément intéressant, c'est que les Gaulois avaient fait de la Seine le lieu où logeait une déesse qui s'appelait Sequana. Or, les Gaulois n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils savaient bien que c'était pas les dieux qui inventaient les hommes, mais c'était les hommes qui inventaient les dieux. Et en nommant la Seine comme étant un dieu, ils en faisaient, en fin de compte, un espace extraterritorial qui était respecté par tous et qui donc permettait au peuple qui était en bordure de la Seine, de la source où se trouvait un grand sanctuaire jusqu'en la bouchure, de respecter cet espace de communication et cet espace économique. Et là, je trouve qu'il y a un intéressant phénomène économique, religieux et politique qui nous interroge même sur le droit gaulois quand aujourd'hui on essaie de donner un statut juridique à certaines montagnes ou à certains fleuves.
Alors, dernière question, elle n'est pas simple puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, Dominique Garcia, mais comment on peut éviter de plaquer sur les Gaulois une grille de lecture anachronique qui répondrait finalement plus à des enjeux de réflexion contemporain que à la compréhension de ce qu'ils étaient et de ce qu'elles étaient?
Alors, pardon, je pense que je retournerai du coup la réponse, la question dans l'autre sens en disant que c'est peut-être nos enjeux européens qui nous permettent de questionner différemment notre documentation archéologique. Aujourd'hui, l'amenuisement des ressources, le statut d'une ville, voilà, quand on visite Bibracte aujourd'hui, on visite une ville gauloise et qui se trouve sous la forêt. Est-ce que la ville est un objet durable? Dans l'histoire de l'humanité, c'est une invention récente. Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup, sauf peut-être un jour de vacances où on circule normalement dans Paris. Sinon, ça devient difficile. Donc, peut-être aujourd'hui, c'est nos préoccupations de santé, nos préoccupations de pouvoir, nos préoccupations concernant l'environnement qui peuvent nous servir à réinterroger les sources et à en voir comment la documentation archéologique permet de construire des modèles qui ne prédiront pas l'avenir, mais qui nous permettront peut-être de réfléchir au présent.
Les Gaulois à l'œil nu, c'est le titre de votre livre paru chez CNRS Éditions. Ça permet de vraiment avoir une vision beaucoup plus dynamique et renouvelée de ces peuples-là. Merci beaucoup Dominique Garcia d'être venu aujourd'hui nous aider à y voir plus clair dans cette histoire des Gaulois. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Ali Ruyer-Thompson, Bruno Sansini, à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Grégory Wallon aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.